Le journal était signé Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est ce qu'on appelle un débat houleux. L'Assemblée nationale a donc examiné cette semaine le projet de loi sur le renseignement, sujet sensible. Le constat de départ est le suivant. Les failles dans le renseignement n'ont pas permis d'empêcher les attentats du mois de janvier dernier, ni les tueries de Toulouse et Montauban de Mohamed Merah, ni l'attentat contre le musée juif de Bruxelles, l'affaire Médine-et-Mouche. Un débat loin d'être consensuel au point que le journal Le Monde se demande s'il ne s'agit pas d'une loi dangereuse, avec tout au long de la semaine des craintes exprimées, des références au roman de George Orwell, 1984, Big Brother vous regarde. Nos libertés sont-elles menacées? La presse doit-elle être mise à l'écart de ce projet? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Amaël Guiton, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Libération en charge du numérique et vous avez publié aux éditions Au Diable Vauvert, Hackers au cœur de la résistance numérique. Jacques Fouleroux, journaliste d'enquête au Monde, chargé des questions de terrorisme et de renseignement. Vous êtes l'auteur de Démocratie sous contrôle, la victoire posthume d'Oussama Ben Laden chez CNRS Éditions. Bonjour.
Bonjour.
Et François Clémenceau, rédacteur en chef du service étranger au Journal du Dimanche. Vous avez signé cette semaine une enquête sur les espions, les jeunes espions de l'après-Charlie. Et vous venez de publier un livre sur un tout autre sujet, mais dont on a beaucoup parlé cette semaine également. Hillary Clinton, de A à Z aux éditions du Rocher. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
En duplex, au téléphone, nous rejoindrons en cours d'émission Benjamin Desgachons, directeur France du site change.org, qui a mis en ligne une pétition contre cette loi sur le renseignement. Stop au Big Brother français. Nos deux regards extérieurs aujourd'hui dans le secret des sources, Isabelle Véramasson, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, et Thibaut Henton pour les images et le web. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes cette semaine d'Ofar Guérid. Le rendez-vous incontournable en fin d'émission, c'est le clin d'œil de Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Le texte a été présenté dans un contexte bien particulier, deux mois après les attentats djihadistes qui ont fait 17 morts en France. Et il a un objectif affiché, renforcer la lutte contre le terrorisme, tout en respectant les libertés individuelles.
Sommes-nous en guerre? La question a en réalité peu d'importance, car les terroristes djihadistes, en nous frappant 3 jours consécutifs, y ont apporté une nouvelle fois la plus cruelle des réponses. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical.
Que faisons-nous? Nous protégeons les libertés. Il y a des pratiques dans ce pays qui étaient grises, parce qu'elles n'étaient ni permises ni interdites. Nous avons des services. Ne renversons pas la charge de la preuve. Ce ne sont pas les services qui sont une menace. Aujourd'hui, nous devons faire face à des menaces et l'État a des outils pour y faire face. Les services de renseignement sont ces outils. Il était logique, il était sain même de les encadrer.
Le secret des sources.
Voilà, vous venez d'entendre dans l'ordre Antoine Maretz dans le journal de 8h lundi dernier sur France Culture. Nous sommes en guerre contre les terroristes avec des applaudissements, déclaration du Premier ministre Manuel Valls au mois de janvier dernier après les attentats et le député socialiste Jean-Jacques Urvoas, le rapporteur du projet de loi sur le renseignement, invité du 7-9 de France Inter mercredi dernier. Jean-Jacques Urvoas se veut très rassurant, nous protégeons les libertés. Jacques Fouleroux, une loi de tous les dangers avec un point d'interrogation, l'un des titres de votre journal Le Monde cette semaine. Est-ce que la presse n'est pas un peu trop alarmiste sur ce projet de loi ?
Ah, moi, je trouve que globalement, si on voit ça globalement, au-delà de mon simple journal, je trouve qu'il y a... Il n'y a pas eu réellement un vrai travail de décryptage des enjeux. C'est-à-dire que on a eu tout d'abord soit un relais d'éléments de langage gouvernementaux sur tout cela est un texte antiterroriste, c'est pour répondre aux attaques de janvier, etc., ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire le texte lui-même n'est pas un texte antiterroriste. Et par ailleurs, il faut quand même le dire très clairement, contrairement à ce qu'on a juste entendu il y a quelques instants, c'est-à-dire que les drames qu'a pu connaître la France, je veux dire, Mohamed Merah, il était en contact avec les services français. Donc ni un dispositif technique nouveau, ni les pratiques illégales qui sont légalisées là par ce texte de loi n'auraient changé quoi que ce soit aux actes qu'il a commis sur le sol français. Mehdi Nemmouche, pareil. Je veux dire, il a envoyé aucun email, aucune conversation téléphonique, etc. n'aurait permis de l'intercepter. Les frères Kouachi et Koulibaly, ils étaient connus de la justice. Donc on n'est pas, il y a une façon de vendre par le gouvernement, qui évidemment, il y a une dimension tactique à cela, de surfer sur l'émotion et le drame de janvier, je veux dire, qui n'a pas vraiment été évité par la presse. Et puis par ailleurs, je trouve que sur le décryptage des enjeux, moi j'ai été frappé par, globalement, plutôt un désintérêt, à part quelques journaux. Et on est dans un pays où la presse, mais aussi le Parlement, qui a quand même largement démissionné, me semble-t-il, ont relayé plutôt une raison d'État, avec un consensus où on accepte que le pouvoir de l'État, le pouvoir de l'administratif, devienne de plus en plus exorbitant, oui.
Mais alors, il s'agit quand même de quoi ? De légaliser des pratiques des différents services de renseignement français, de légaliser ce qui existe déjà, en fait. En quoi la menace est-elle plus grande, Amel Guiton ? Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Pour la porte ouverte à la surveillance de masse ?
Effectivement, donc le discours, c'est de dire on va donner plus de moyens aux services de renseignement, en admettant d'ailleurs plus ou moins au passage hein, que c'était des pratiques déjà utilisées, mais qu'il s'agit de les faire entrer dans le droit, à la fois pour sécuriser les agents et puis pour permettre plus de contrôle. Le problème, c'est... Alors, vous dites la presse est alarmiste. Moi, j'ai l'impression quand même que,
en
dehors d'un désintérêt assez fort de l'opinion publique, il y a énormément de gens qui sont alarmistes. Et c'est pas uniquement les associations de défense des libertés qui, sur ces sujets-là, se mobilisent de manière assez classique. On a aussi entendu la Commission nationale informatique et liberté s'inquiéter. La Commission nationale consultative des droits de l'homme vient de rendre un avis qui est quand même extraordinairement critique. Et le président de la Commission de contrôle des interceptions de sécurité, donc le gendarme des écoutes, lui-même dit le texte ne donne pas suffisamment de pouvoir et de moyens à la Commission de contrôle. Donc la vraie question, c'est celle-là. C'est tout le discours gouvernemental et de dire on va renforcer les moyens tout en renforçant le contrôle. Est-ce que le contrôle est véritablement renforcé ? Manifestement, tout le monde est très très loin d'en être convaincu. Et alors sur l'aspect surveillance de masse, oui. Il y a quand même dans ce texte...
Bernard Cazeneuve, que vous avez rencontré, dit que c'était un mensonge. Hein.
Alors, lui,
voilà, c'est assez vif.
Voilà, c'est effectivement, c'était un entretien assez, assez musclé, on va dire, parce qu'il était, il était vraiment en défense de ce texte, c'est très clair. Mais quand on parle d'un dispositif algorithmique déployé sur les réseaux des opérateurs de télécommunications et chez les hébergeurs qui va faire de la détection, c'est forcément qu'il y a un grand nombre de données qui vont passer au tamis. Donc, alors effectivement, là, il y a eu une re-rédaction parce que les hébergeurs Internet sont montés au créneau très fortement, hein, parce qu'ils sont très très inquiets, qui en réduit le champ. Donc il faut voir jusqu'à quel point effectivement ça sera le cas. Mais de toute façon, quand on parle de données algorithmiques, c'est qu'il faut passer plein de choses au tamis.
Alors, j'entends ce que vous dites, mais je reviens sur ce que disait Jean-Jacques Urvoas, et je voudrais votre avis, François Clémenceau. Ce ne sont pas les services de renseignement qui sont une menace, nous dit-il. Bien, ce sont les terroristes, on ne l'a pas perdu de vue ces derniers jours en commentant ce projet de loi.
Oui, moi, je ne suis pas là pour défendre ou pas le projet de loi, même si, effectivement, je constate que depuis le début de la discussion, il a été, sur certains points, amélioré et qu'il, à mon avis, reste améliorable. Et notamment si la question de la constitutionnalité est posée, c'est tant mieux. Mais en même temps, je voudrais pas qu'on perde de vue le contexte, quoi. Et c'est pas une histoire de réagir dans la précipitation parce qu'il y a eu des attentats, parce qu'on essaye d'y répondre tant bien que mal et peut-être pas forcément avec les bonnes méthodes, mais qu'on soit juste dans le contexte. Et c'est vrai que même si on peut critiquer les effets de manche de Manuel Valls au Parlement lorsqu'il dit nous sommes en guerre contre le terrorisme, quelle que soit la façon dont on le dit, ça reste une réalité. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se voiler la face, on peut se boucher les oreilles, on peut se considérer pendant 3 secondes comme si on était en Islande, mais la vérité c'est qu'on est en France et qu'on a là, sur notre sol, il y a eu des victimes d'attentats terroristes qui ne semblent pas avoir bénéficié d'une logistique absolument extraordinaire contre laquelle nous serions totalement démunis, mais qui malgré tout sont un peu les fantassins de certaines organisations qui, elles, commence à se doter de moyens de plus en plus impressionnants. On l'a vu notamment avec l'histoire de TV5. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on finit par se poser la question de savoir si on a les bonnes armes pour répondre à ceux d'en face. Donc, est-ce que les services de renseignement sont contents de cette loi ou de ce projet de loi ? La réponse est plutôt oui, même si ils auraient souhaité avoir davantage de moyens ou davantage de marge de manœuvre. Est-ce que les services de renseignement français, intérieur et extérieur, participent d'une volonté de surveiller massivement la population au point qu'on pourrait se croire dans une dictature ou dans un pays où là, pour le coup, la population est surveillée massivement. Et je fais allusion à un certain nombre de pays où la population est surveillée massivement et où il n'y a pas forcément d'ailleurs de terrorisme. Et enfin, pour tous ceux qui se souviennent des premières comparaisons qu'on faisait avec le Patriot Act sur le thème, vous vous rendez compte, on est en train de se doter de moyens qui sont comparables à ceux qui ont été mis en œuvre au moment de la présidence Bush, après les attentats du 11 septembre. Franchement, entre les deux textes, c'est pas le jour et la nuit. Il y a évidemment des ressemblances, mais on n'est absolument pas dans le même ordre de grandeur. Oui, les algorithmes, c'est dangereux. Je suis parfaitement d'accord avec vous, parce qu'on entre dans ce monde des mégadonnées qui est absolument pour nous insaisissable, et on se dit, c'est la porte ouverte à tous les abus. Mais en même temps, lorsque on dit aux gens, à ma mère, à ma fille, que tous les jours, elle est victime des algorithmes, parce qu'on sait exactement, lorsqu'elle va sur Internet, la façon dont les opérateurs ou les grandes marques peuvent évidemment identifier, profiler, détecter la moindre tendance qu'il peut y avoir à travers un certain nombre de connexions, on se dit que c'est tout aussi effrayant, c'est une autre forme de dictature, mais elle existe et apparemment, on ne s'en plaint pas. Donc je voudrais juste qu'on ait ce contexte-là bien en face et qu'on puisse se dire, est-ce que lorsque on connaît une période de l'histoire aussi dramatique sur le plan du terrorisme, est-ce qu'il n'y a pas, par moment, quelques sacrifices à faire en sachant que j'ai pas, moi, l'impression de tomber du jour au lendemain avec cette loi d'une démocratie dans une dictature.
Jacques Follerou.
Je pense qu'on n'a pas de sacrifice à faire. La question, elle n'est pas... La démocratie et l'État, ils ont une double vertu. Enfin, c'est ça le propre de nos démocraties occidentales. C'est-à-dire qu'elles doivent à la fois protéger leur population et évidemment leur territoire, mais aussi défendre les valeurs fondamentales. Et qu'il faut bien insister sur une chose, c'est-à-dire que ce texte-là, il n'est pas destiné en priorité à lutter contre le terrorisme. Je veux dire, ce sont des outils qui sont donnés de surveillance, hein, donc à la fois des outils de terrain, mais aussi, ça valide aussi des dispositifs techniques d'interception, et d'écoute, et de collecte, et de tri, etc., qui sont alloués aux services de renseignement, donc à la puissance administrative, pour travailler sur tous les domaines, toutes les menaces. Aujourd'hui, on légalise 40 ans de pratiques illégales. Alors en effet, on entend Urvoise. Derrière le discours d'Urvoise, de Maisonneuve, de Le Drian, de Matignon aujourd'hui, c'est de dire, mais quand même, quelle ingratitude. D'ailleurs, vous avez quelques personnes, je pense qu'il y a que quelques personnes qui critiquent et qui sont vraiment vigilants. Le reste de la population, je veux dire, ils achètent ça. Ils achètent ça parce que on baigne dans une ambiance anxiogène, etc. Mais ce que je veux dire, je finis sur ce point-là. C'est-à-dire que ces pratiques illégales, je veux dire, c'est pas parce qu'on légalise un certain nombre de pratiques illégales qu'il n'en reste pas d'illégales. Or, aujourd'hui, et ça, c'est la grande surprise aussi au journal, on sort un élément important. Je veux dire, pour décrire aujourd'hui le dispositif français de sécurité, de surveillance. D'accord? Donc, vous avez une plateforme technique, pour faire simple, qui est logée à la DGSE, donc au service extérieur, qui collecte, qui trie, qui stocke. D'accord? Et qui a été mutualisé avec l'ensemble des services de renseignement. Et c'est aujourd'hui la pierre angulaire du renseignement technique en France et qui joue une grande part d'ailleurs dans le dispositif de protection des intérêts français. Et si vous voulez, et ce dispositif-là, il passe complètement à l'AS. Il n'est pas du tout traité et abordé, intégré dans le projet de loi. Et il se trouve que ce dispositif
d'où le Parlement.
D'où le Parlement. Oui, mais qui laisse de côté ce dispositif-là. Et pourquoi ? C'est parce que comme vous avez un statut juridique de cette base de données gigantesque et massive et très puissante qui obéit à un statut juridique extérieur, qu'il est utilisé par les services de renseignement qui eux sont tenus par une loi nationale, et que le télescopage entre les deux, si vous voulez, crée une vraie faille juridique.
Et par ailleurs,
le mode de consultation de cette base de données par l'ensemble des services de renseignement n'y a aucun filtre. Et le seul n'obéit qu'à au co-contrôle des hiérarchies des services de renseignement. Et là, c'est Hervé Morin qui le dit. Il dit, écoutez, il répond au Monde, j'ai interrogé là-dessus. Il dit, le problème, c'est que ce qui m'inquiète, et il cite évidemment 2017 et 2022, c'est que si le régime... Donc lui, il donne acte au gouvernement de ne pas vouloir porter atteinte...
Ça tombe entre de mauvaises mains, c'est ça ?
Et le fait qu'il n'y ait pas de contrôle sur cet outil central du renseignement technique français aujourd'hui fait que ça ouvre la porte à tous les abus. C'est ça qui est dangereux.
D'abord, il y a quand même un premier point qui était effectivement soulevé par Jacques Follereau et que mes collègues qui travaillent sur le renseignement connaissent bien. C'est que souvent, les failles viennent plutôt de défauts d'analyse ou de tuilage des services, qui sont deux questionnements auxquels le projet de loi, pour le coup, ne répond pas, probablement parce que ça n'est en partie pas son objet, en tout cas dans ce qui concerne le recrutement par exemple. Mais en quoi est-ce qu'on est vraiment certain que c'est un manque de moyens techniques, alors que c'est peut-être plus probablement un manque de moyens humains ? Ça, c'est la première question. Et puis, moi, j'ai toujours quand même un petit souci avec cette comparaison avec les algorithmes de Google ou de Facebook, tout simplement parce que Google et Facebook sont des entreprises privées qui agissent dans des buts commerciaux. On a un contrat avec l'État de droit. Tout de même, on est des citoyens d'un état de droit, c'est très différent, c'est bien pour ça qu'il faut une délibération collective et c'est bien pour ça qu'il faut se poser la question de manière extrêmement politique. Est-ce que l'État doit faire de la collecte indiscriminée ? En l'occurrence, on a quand même le cas états-unien où pour le coup, des commissions ad hoc qui ne comptent pas uniquement des gauchistes patentés mais qui comptent aussi un certain nombre de républicains ont conclu au fait que ce qui relevait de la collecte indiscriminée en réalité ne changer rien, que ce qui marche, c'est la surveillance ciblée. Celle-là, effectivement, elle est utile. Mais ils ont quand même conclu au fait que la surveillance de masse n'avait pas permis de prévenir des attentats. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui se posent cette question autour notamment de ce fameux dispositif algorithmique ou plus globalement autour de tout ce qui relève d'une collecte assez massive de données. On n'a manifestement pas la garantie que ça soit utile et ça pose évidemment un problème aussi d'inversion de la surveillance, c'est-à-dire on ne va pas chercher à savoir ce que fait une cible, on va essayer de trouver qui a des comportements signants.
Ouais. Je comprends qu'on soit inquiet, je comprends cette inquiétude-là, je comprends que parce qu'on vit dans une démocratie, naturellement, on a toujours peur de perdre un peu de sa liberté, on a peur de se dire « je peux être écouté, je peux être surveillé ». Je comprends tout ça, ce sont des réflexes humains, normaux et encore plus sains parce qu'effectivement, on vit dans une démocratie. Et puis en même temps, il y a des moments où moi, je me dis, pardonnez-moi, citoyen et aussi journaliste, à force de couper les cheveux en quatre par rapport à des coupeurs de tête, de temps en temps, je me dis... Il y a des cadeaux qu'on ne peut pas se permettre de faire. Il y a du temps qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Il y a un certain nombre de failles qu'on ne peut pas laisser aux terroristes pour qu'ils s'engouffrent dedans. Donc, il y a un moment où il faut savoir se dire si la police, les services de renseignement sont équipés pour répondre à ce genre de menaces. Et si nous, individuellement, on est prêt à faire quelques sacrifices à partir du moment où on n'a pas grand-chose à se reprocher, y compris en tant que journaliste. Est-ce que on pourrait avoir ce minimum de confiance dans ce que vous appelez l'administration ou l'État à partir du moment où les lois qui encadrent tout cela ont été votées par le Parlement, qui eux-mêmes sont représentants du suffrage universel ? Enfin, je ne sais pas.
Mais c'est, pas, c'est le problème de...
Très très court, Jacques Follereau, on va passer
Personne ne dénie à l'État le droit, le devoir de s'outiller pour protéger sa population et un territoire. Mais là, et c'est pas couper les cheveux en quatre que de poser les questions qu'on a évoquées juste avant. C'est juste que, imperceptiblement, derrière une forme d'anxiété, de peur, etc. Et après, on peut poser la question de la violence. Est-ce que c'est vraiment la première des violences que subissent les Français ? C'est pas sûr du tout. Je pense d'ailleurs pas. Mais que derrière, en fait, on change la nature de notre société. On modifie l'équilibre des pouvoirs et on restreint le champ de nos libertés. Et que c'est pas une anecdote. C'est pas anecdotique.
Vous dites qu'on sort de l'état de droit. Oui,
c'est pas anecdotique.
C'est un argument. Vous aurez la mort de votre famille qui mourra dans un accident de voiture parce qu'effectivement, il y a des milliers de gens qui meurent sur la route chaque année. Le jour où vous aurez quelqu'un de votre propre famille qui sera mort dans un accident de voiture, vous aurez un tout petit peu l'envie de se dire, est-ce que la loi est bien faite ? Est-ce que qu'est-ce que fait-on par rapport au chauffard ? Que fait-on par rapport à l'alcool au volant ? Vous vous poserez ces questions, je ne suis pas sûr que vous aurez des réponses, mais vous vous poserez naturellement cette question. Et donc, s'il vous plaît, eu égard à ces gens qui sont morts chez nous au mois de janvier ou avant, même si encore une fois on avait peut-être les moyens de détecter les terroristes moyens.
Non, mais il faut arrêter ce chantage, c'est une façon, on peut pas raisonner comme ça. On peut pas dire sans arrêt, comme le fait d'ailleurs le gouvernement, pour vendre son projet de loi, se référer en permanence à la douleur des gens qui sont, ou aux familles qui ont perdu des gens en janvier. C'est pas possible. C'est pas l'enjeu. C'est pas ça la discussion. C'est pas ça le cœur de ce qui se joue là.
Donc, c'est quoi ?
Et l'argument, François, quand vous dites, mais moi ça me dérange pas qu'on vienne fouiller dans mes mails, dans mes données privées. Moi j'ai rien à me reprocher. Mais c'est un argument qu'on entend aux États-Unis depuis 15 ans.
De quoi ? Quand on fouille votre sac à l'entrée de Radio France en ce moment ? Il n'y a pas un moment où vous dites, tiens, j'ai oublié de monter un truc.
Il faut peut-être rappeler quand même que dans tous ceux qui sont passés à l'acte ces derniers temps, il n'y avait personne qui n'ait pas été à un moment ou à un autre repéré par un service de renseignement.
Et vous pensez au prochain ?
Moi, ça veut quand même dire que, manifestement d'ailleurs, les services de renseignement réussissent à faire une collecte d'informations efficace et qu'il faut se poser la question de pourquoi. Pourquoi, à un moment, on les perd de vue ? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement des défauts plutôt
d'analyse ? Vous êtes au courant de tous les attentats qui ont été déjoués ? Vous êtes au courant de ces attentats qui ont été déjoués ? Moi, non, mais il y en a.
Est-ce qu'ils ont été déjoués par des algorithmes ?
Non. Est-ce qu'ils ont été déjoués par un certain nombre de procédures que nous ne maîtrisions pas, nous, qui étaient totalement illégales ? Et qui mérite peut-être maintenant désormais d'être encadré. Encore une fois, je suis pas en train de vous dire que cette loi est absolument géniale. Je suis juste en train de vous dire que oui, les parlementaires, l'État essayent de faire un effort pour trouver des moyens qui ne répondent pas seulement, vous avez raison, à la question du terrorisme, mais qui posent aussi la question des menaces, des autres menaces. Il n'y a pas que la menace terroriste. Il y en a d'autres.
Il y en a même qui sont d'ailleurs assez larges.
Les parlementaires eux-mêmes disent
que l'espionnage,
que ce soit à droite.
Pardonnez-moi, n'est pas un vilain métier. C'est un métier nécessaire.
Mais personne n'a dit ça.
François, Jacques, Hamel, il n'empêche que le terrorisme a quand même fait descendre 4 millions de personnes dans les rues en janvier. Mm-hmm. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on focalise un peu là-dessus et qu'une partie des Français entendent l'argument, renie un peu sur les libertés pour la sécurité, ce dont on parlait tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous voulez ? Des renseignements.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
À Isabelle Vernasson, alors les journalistes dans cette loi, alors il y a le secret des sources, François Hollande au début de l'année, lors des 70 ans de l'AFP, s'est engagé à ce que le projet de loi renforçant la protection du secret des sources soit examiné au Parlement cette année. C'est les propositions de Hollande, candidat pendant la campagne. Où en est-on de la loi renforçant le secret des sources des journalistes ?
Alors, on ne le sait pas. On ne le sait pas, c'est une loi, effectivement c'est une promesse, la 51e promesse sur les 60 de François Hollande de faire une loi, une autre, hein, il y en a déjà eu sur la protection du secret des sources. Moi ce qui me semble important dans le débat, c'est de dire que c'est peut-être une réponse à l'inquiétude que je trouve d'ailleurs légitime de cette loi sur le renseignement. Cette loi, elle vise très large, elle propose quand même d'enregistrer massivement et d'inquiéter les gens. Donc vous disiez que certains journalistes pouvaient se retrouver inquiétés, mais les chercheurs également, et on ne sait pas, enfin tout le monde a lu Kafka. Les avocats, on ne sait pas très bien ce qui peut se passer. Donc en ce qui concerne les journalistes, puisque c'est la question que nous posions aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement un risque avec cette loi sur le secret des sources, puisqu'il est possible que pour les services d'enregistrer les enregistrements des journalistes. Alors que faire pour protéger le secret des sources ? Soit on pourrait, comme c'est un peu la question que vous posiez, élargir la composition de la Commission nationale des contrôles des techniques public de renseignement, qui est cette nouvelle commission qui est destinée à surveiller cette loi, en faisant peut-être venir des journalistes qui seraient là avec une certaine présence. Je pense que c'est pas une bonne idée, parce qu'ils seraient à la fois jugés partis. Je crois que les journalistes n'ont pas envie de faire partie de ce genre d'instance. Alors on pourrait créer une instance de régulation. Un certain de mes collègues parle d'un conseil de presse qui serait un lieu dans lequel, en cas de sentiment d'abus ou de risque de menace sur le secret des sources, on pourrait intervenir. Mais, et c'est là que l'on vient à votre question, on peut aussi espérer que cette loi sur la protection du secret des sources qui a été promise par le président de la République réponde d'une certaine manière à la fois au danger que fait courir cette proposition de loi sur le renseignement, et puis qu'elle garantisse aux journalistes qu'ils puissent faire leur travail, enquêter sans craindre pour leurs sources, sans craindre pour eux-mêmes, et tout simplement qu'ils puissent faire leur métier. On sait bien que lorsqu'un journaliste ne peut pas travailler dans le secret, évidemment, il se prive d'un certain nombre de résultats. Donc moi, j'espère que la loi sur le secret des sources va enfin arriver, et qu'il y aura dedans une exception journalistique, pourrait-on dire, qui garantisse aux journalistes de ne pas être embringués dans ces algorithmes qui, à mon avis, marchent sur les plates-bandes de leur métier.
Isabelle Vera Masson. Alors, on va rejoindre en duplex par téléphone Benjamin Desgachon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur pour la France du site change.org, plateforme mondiale pour le changement. Et donc, vous avez mis en ligne une pétition, retirer le projet de loi renseignement Big Brother français. Et c'est la pétition qui apparaît en tête de liste devant le gâchis alimentaire et le don de sang. Ça veut dire que la pétition a beaucoup de succès, Benjamin Desgachon?
Alors, la pétition a été lancée par deux personnes, Thomas Guénolé, politologue, et Katerina Rizakova, qui dirige un cabinet de communication sur notre site, qui est une plateforme ouverte de pétitions en ligne. Ce n'est pas nous qui mettons en ligne les pétitions, ce sont nos utilisateurs. Et c'est effectivement la plus populaire ces derniers jours, puisqu'elle a dépassé les 90 000 signatures en à peu près 10 jours après son lancement. Et elle a pris une ampleur très rapide en parallèle des débats à l'Assemblée nationale cette semaine concernant le projet de loi sur le renseignement.
Et à qui sera-t-elle adressée ensuite? Qu'est-ce que vous en faites de la pétition?
Alors en fait, sur change.org, les utilisateurs ont la possibilité d'adresser très directement leur pétition aux décideurs qui sont ciblés, en l'occurrence le Premier ministre et les députés et les présidents des groupes parlementaires, en indiquant leur adresse mail, et ces personnes reçoivent des notifications régulières sur cette pétition, le nombre de signatures, mais aussi les commentaires et les motivations de ces signataires venus de partout en France qui expliquent qu'en gros, ils ne veulent pas remettre en cause la protection de la vie privée pour des motifs qui seraient liés à la lutte contre le terrorisme uniquement.
Et quel est votre sentiment à vous sur ce projet de loi? Pourquoi vous le portez, vous le soutenez, vous le mettez en tête de liste des pétitions?
Alors encore une fois, je pense que c'est une plateforme ouverte, c'est-à-dire que les pétitions les plus populaires, elles remontent sur notre plateforme. Notre rôle, c'est de faire connaître cette diversité de pétitions qui sont lancées chaque jour et qui sont finalement quelque part un baromètre aussi de l'opinion, de ce que les citoyens disent. Et je trouve que sur la question de la loi sur le renseignement, il y a cette mobilisation massive. Donc nous, en tant que plateforme ouverte, on n'en dit rien de particulier. Ce qu'on remarque, c'est que les motivations des auteurs de cette pétition sont très claires. C'est vraiment l'idée du refus de la surveillance de masse et de cette possibilité de légaliser finalement la violation de la vie privée. Ce qu'expliquent les auteurs de la pétition, c'est que eux ne remettent pas en cause la nécessité d'avancer sur ce cadre juridique, d'avancer dans la lutte contre le terrorisme, mais ils s'inquiètent très vivement de ces pratiques de surveillance très intrusives, sans garde-fou. Et finalement, ils refusent ce qu'ils appellent un chantage à la menace terroriste. Et surtout, vous évoquiez dans le débat ce besoin de confiance envers le gouvernement et les parlementaires. Mais justement, ce qu'ils pointent du doigt dans leur pétition, c'est le fait qu'il y a une procédure accélérée au Parlement pour un texte aussi important. Et eux, par cette pétition, ils refusent cette procédure accélérée. Ils refusent le fait que finalement, la consultation des ONG, de la société civile en général, a été quelque part bâclée, alors qu'on est sur vraiment la définition du point d'équilibre entre sécurité et liberté.
Merci beaucoup, Benjamin Desgachon, directeur France du site change.org.
Merci.
Call
La chanteuse américaine Macy Gray qui a interprété Big Brother, une reprise de Stevie Wonder. Le secret des sources sur France Culture avec nos invités Amaël Guiton de Libération, Jacques Follereau du Monde et François Clémenceau du JDD. Thibouenton, il n'y a pas que change.org dont on vient d'entendre le président France sur le web qui s'agit. On parle beaucoup, beaucoup de, sur les réseaux sociaux de ce projet de loi avec des initiatives plus ou moins originales.
Oui, parce que c'est pas facile d'informer à propos de cette loi très technique, on l'a un peu dit. Pas facile ne serait-ce que de persuader de l'intérêt de ce sujet-là, y compris sur Internet, le côté ton sur ton. Sans doute. Alors certains ont pourtant essayé, et je vais lister quelques tentatives, à commencer par la plus spectaculaire, le site horus.dnri.fr, qui reproduit la charte graphique des renseignements, des services de renseignement, et permet, après connexion, de consulter une console sur laquelle défilent en temps réel des adresses IP et des logs de connexion. Bref, une plateforme pour surveiller à distance le réseau et tous ces suspects algorithmiquement construits qui se mettraient à clignoter. On s'y croit, on commence à réfléchir à ce qu'on ferait avec un tel outil, ne serait-ce que pour jouer, avant qu'un message n'apparaisse pour briser le rêve. Moins sophistiqué, mais tout aussi pédagogique, le quiz mis en place par Libération, un mini-site qui invite à répondre à quelques questions. Êtes-vous un espion de la CIA ? Êtes-vous un indépendantiste, anti-police, trop bavard avec vos amis chinois sur la dernière innovation de votre labo, en route pour faire le djihad en Syrie ? Non, rien de tout ça. Et dans votre entourage non plus, personne qui colle à un de ces profils. Vous avez beau répondre non, 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 à chaque fois, vous tombez quand même sous le coup de cette loi. Je voulais vous demander, Amaël Guiton, si ça a eu un plus grand succès que les articles que vous avez pu écrire sur le projet de loi, sur le renseignement, cette application.
Je vais vous avouer très humblement que je n'ai pas les chiffres. J'aurais peut-être dû m'en enquérir auprès du service web avant de venir, mais en l'occurrence, j'ai vu que ça tournait pas mal sur Twitter quand même, donc je me dis qu'il y a
que ça fonctionne
quelques personnes
pas mal.
Qui se sont amusées avec.
Quoi. Autre tactique, prendre un point précis du projet de loi, donc comme celui des boîtes noires, les algorithmes dont on parlait tout à l'heure, en gros, consiste à lâcher un algorithme dans les tuyaux et puis de voir les suspects qui ressortent de cet algorithme. Et c'est ce qu'a choisi de faire Andrea Fradin pour U89. L'algorithme du gouvernement sera intrusif et inefficace, on vous le prouve, en interrogeant des spécialistes reconnus de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle, dont une dit « J'ai l'impression que les politiques viennent me raconter mon boulot alors qu'ils ne le connaissent pas mieux que moi. Ils parlent d'algorithme avec un grand A, comme s'il s'agissait d'un archange tombé du ciel pour arrêter les méchants. Non, un algorithme ne sort que des cerveaux humains et je vous en conjure, méfiez-vous de ce qui sort de mon cerveau. » Fin de citation. Des avis éclairés que balayera un peu plus tard le ministre de l'Intérieur dans l'hémicycle d'une réponse bientôt mythique.
Moi, ce qu'il y a dans les articles de presse, par principe, je ne le crois pas. Parce que je suis un esprit libre et indépendant. Donc c'est peut-être dans l'Observateur, c'est peut-être dans le petit Bessin illustré, mais moi, je n'y crois pas par nature et par essence.
Bon, voilà pour quelques exemples. Pas de dispositif sensationnel déclenchant une prise de conscience collective suivie d'une mobilisation de masse, donc, mais une pelletée d'articles pédagogiques qui auraient pu y suffire. Enfin, et peut-être surtout, cet exposé ne serait pas complet si j'oubliais de mentionner le suivi en temps réel sur les réseaux des débats grâce aux mots-clés PJL, renseignement, journalistes, associations, citoyens à la vigilance précieuse, qui ont retranscrit entre lundi et jeudi à la virgule près les débats qui se déroulaient dans une assemblée vide jusqu'à 1h du matin. Vidéo des débats qui sont d'ailleurs facilement téléchargeables. Je dis ça pour ceux qui voudraient prendre des cours de rhétorique sophistique directement auprès du gouvernement, mais faites attention, je vous préviens, la rationalité y est fortement malmenée.
Thibaut Henton.
La pose de balises sur une voiture, de micros, de caméras à un domicile ou de mouchards sur un ordinateur ne va donc plus se faire sans être encadrée. Ces interceptions de sécurité seront soumises à l'avis de la CNCTR, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui pourra saisir le Conseil d'État en cas d'irrégularité. Insuffisant pour beaucoup d'associations, elles auraient voulu que cette commission ait un droit de veto ou que ces pratiques soient sous le contrôle du juge judiciaire. Pour Éric Denessé, le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, il faudrait surtout limiter dans le temps ce dispositif et le réexaminer pour éviter des dérives politiques. Dérives qui, selon lui, pourraient d'ailleurs être dénoncées par les policiers eux-mêmes.
c'est la possibilité de témoignage, presque de lanceur d'alerte, d'un membre d'un service de police ou de renseignement, s'il considérait que, dans le cadre de ses missions, de ses fonctions, ses autorités lui demandaient de faire des choses qui sont contraires à la loi, et il devrait exister cette possibilité d'alerter, de prévenir la commission qui est mise en place, et d'être protégé dans ce cadre-là, sans qu'on arrive à des extrémités comme celle d'Edward Snowden.
Cette idée d'un statut de lanceur d'alerte, le rapporteur de la loi Jean-Jacques Urvoas en a justement fait un amendement qui sera débattu cette semaine à l'Assemblée.
Voilà, non seulement débattu, mais adopté la nuit de jeudi à vendredi. Reportage de Nathalie Hernandez, diffusé dans le journal de 7h30 de France Culture. Dans le journal de 7h30 de France Culture, mercredi dernier. Donc, ce statut de lanceur d'alerte qui figure maintenant dans le texte, amendement dit Snowden, du nom de cet informaticien de l'NSA dont on parlait en début d'émission, qui a révélé le scandale des écoutes aux États-Unis. François Clémenceau, l'amendement Snowden, c'est un bon point pour la loi, là.
Oui, plutôt. Mais sincèrement, encore une fois, j'ai l'impression que, au bout du compte, et pour remettre les choses un peu à plat, quand je parlais de sacrifice tout à l'heure, ce n'était pas un mot que j'ai inventé comme ça. Je pense qu'effectivement, dans un pays où on jouit de cette extraordinaire possibilité de bénéficier d'un débat libre, d'une démocratie plutôt saine, mais renoncer à un certain confort, oui, ça me paraît pas insultant pour la citoyenneté. Mais je trouve que de temps en temps, on se comporte un peu comme des enfants gâtés. On a l'impression que on a toujours envie d'avoir tous les avantages sans les inconvénients.
Alors, des sacrifices nécessaires pour renoncer à un certain confort. Jacques Follereau, Mel Guiton, vous tordiez le nez.
On ne peut pas considérer que la vie privée relève uniquement du confort. Quand on porte des atteintes à la vie privée, il faut quand même se poser la question des raisons pour lesquelles on le fait. Je crois que personne, absolument personne, ne conteste la nécessité de se protéger des actes terroristes. Je crois que personne ne conteste non plus la nécessité d'encadrer l'activité des renseignements. En revanche, il y a effectivement des questions sur le périmètre de leur activité, sur les moyens qui leur sont donnés et sur le contrôle qui est exercé. Et sur ce dernier point, il y a un énorme débat. Il y a un débat très fort qui est monté de la société civile avec un certain nombre d'associations, d'hébergeurs ou d'opérateurs internet d'ailleurs aussi, ou d'institutions qui s'inquiètent. D'ailleurs, Bernard Cazeneuve lui-même dit que ces débats sont légitimes. Donc heureusement, évidemment, qu'il est pris au mot, et c'est vrai que la procédure accélérée, évidemment, ne favorise pas une menée vraiment sur la durée et en profondeur du débat, mais le fait est qu'il y a effectivement un débat. Les hébergeurs internet, par exemple, ont été reçus mercredi dernier, ça sera le tour des opérateurs lundi, donc il y a manifestement quelque chose qui monte, et donc, oui, bien sûr que quand on porte atteinte à la vie privée, au secret des correspondances, il faut se poser il faut véritablement l'encadrer, et la question n'est pas la bonne volonté du gouvernement actuel. Une loi, elle dure, et c'est tout le problème. Est-ce qu'elle est suffisamment protectrice des libertés civiles ou pas? Vu le nombre d'observateurs qui en doutent, il faut au minimum porter le débat, me semble-t-il.
Alors Isabelle Véramasson, vous allez nous éclairer en regardant derrière nous. Il ne s'agit pas de la première loi pour lutter contre notamment les attaques terroristes, et en général, une loi qui repose sur une application que l'on espère vertueuse, eh bien on peut avoir en général des craintes sur des dérives éventuelles.
Oui, de toute façon, d'une manière générale, les lois qui comptent sur la vertu de l'exécutif, de la vertu des puissants, est une loi de toute façon imparfaite. Mais effectivement, l'histoire nous apprend que c'est une histoire très ancienne. Le terrorisme ne date pas, évidemment, des frères Kouachi et ce qu'on appelait, enfin, les anarchistes qui faisaient ce qu'on appelait la propagande par le fait, c'est-à-dire en faisant exploser des bombes dans Paris et ailleurs, ont provoqué une émotion aussi grande et peut-être encore plus grande que ce qui se passe actuellement. Et il y a eu donc des lois d'exception qui ont été faites dans les années 1893-94, qui ont été dites lois scélérates, parce qu'elles revenaient sur des acquis de la démocratie, qui étaient les lois 1881 sur la presse, ces lois qui sont d'ailleurs toujours en exercice, parce que finalement on est revenu en arrière sur les lois scélérates, et il s'agissait effectivement d'empiéter, de faire des sacrifices, comme vous le disiez, sur des droits acquis chèrement, pour une sécurité qui n'a d'ailleurs pas été totale. Alors effectivement, on peut discuter sur l'action, le l'utilité de ces lois scélérates. En tous les cas, les démocraties, les démocrates, que ce soit Blum, Jaurès, etc., ont réagi sur ces lois et elles n'ont finalement pas été appliquées parce qu'à un moment donné, il faut voir aussi que ce n'est pas applicable. Ce n'est pas applicable parce que justement, il y a là quelque chose de profondément outrepassant ce qu'on imaginait même. C'est-à-dire qu'on croit que, comme vous dites, on n'a rien à se reprocher. En réalité, on s'aperçoit vite qu'on a assez vite des choses à se reprocher.
Par exemple,
le plus vertueux de soi. C'est-à-dire que finalement, c'est le jour où vous croyez que vous êtes parfait, que votre fils, que votre oncle, que quelqu'un qui n'est pas si loin de vous, lui n'est pas si parfait que vous l'imaginez, et qu'on rentre dans les processus que la loi doit, pour lesquels la loi doit protéger. Je crois que Reporters sans frontières disait maintenant les propos d'ivrogne risquent d'entraîner 5 ans de prison. Ça a été pareil pour les lois scélérates. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des propos d'ivrogne, des délires verbaux pouvaient vous conduire en prison. Donc, chacun peut un soir boire trop. J'exagère, mais je veux dire, attention, on ne prévoit pas toujours le moment où on sort de la légalité la plus strict.
Merci Isabelle Vermasson. On va changer de sujet avec Thibaut Henton. On va s'attacher à l'image de la semaine, l'une des images de la semaine. Thibaut, vous avez choisi Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, attaqué avec des confettis. Ouais. Hein.
Un papillon est venu mercredi jeter une phrase sur Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne. Chantre de l'austérité et adversaire d'un modèle social européen qui ne tient plus la route. Comme il le confiait au Wall Street Journal en février 2012, Super Mario, donc, est en pleine conférence de presse, quand surgit soudain une jeune étudiante allemande en philosophie avec des confettis et de l'esprit. Joséphine Witt, c'est le nom de la jeune femme, ça ne s'invente pas. Witty Joséphine Witt, donc, lui jette tout ça au visage et permet pendant quelques secondes, immortalisée dans un gif, à la peur de changer de camp. Emportée par deux gardes, tout sourire, la photo de son t-shirt où est inscrit le slogan « End the BCE Dictatorship », abolir la dictature de la BCE, avec au passage un jeu de mots sur « dictatorship », « dict » désignant la verge, a fait le tour du monde, ou au moins de l'eurozone. Mais ce n'était pas tout, car Joséphine avait aussi apporté un texte avec elle qui se termine sur cette phrase « La dette de la BCE reste à payer ».
Thibaut Henton.
Le secret des sources.
L'actualité de la semaine à l'étranger, nous allons ce matin à Jérusalem avec notre correspondant Sébastien Legénie. Shabbat shalom, salam alaikum Sébastien.
Alaikum salam, shabbat shalom Frédéric.
Alors le renseignement est une spécialité notamment en Israël où on se pose beaucoup moins de questions qu'en France sur la bonne méthode pour lutter contre le terrorisme.
Oui, c'est vrai que la controverse ici est beaucoup moins vive sur la question du respect des libertés publiques. À part quelques ONG de gauche, la très grande majorité de la population israélienne considère que la sécurité n'est pas vraiment un sujet de débat, que la sécurité est une évidence, un impératif, et donc les services de renseignement peuvent travailler dans un relatif consensus national, les services qui sont directement sous l'autorité du Premier ministre et dont l'activité est très peu contrôlée par les parlementaires ou par les magistrats. Notez aussi qu'on valorise beaucoup ici les services secrets. L'unité 8200, par exemple, qui est l'unité d'écoute, les grandes oreilles d'Israël, est devenue l'unité d'élite la plus réputée de l'armée. On y recrute les informaticiens les plus doués. Ici, ça ne manque pas des soldats informaticiens qui sont ensuite à l'origine de bon nombre de grandes start-up israéliennes. Alors pour autant, il faut dire que l'État hébreu, parce que c'est un pays confronté depuis toujours à la guerre et au terrorisme, a quand même très tôt légiféré sur les questions liées au renseignement. Il n'y a certes pas de grande loi sur les services comme celle votée en France, mais la Cour suprême, par exemple, a très clairement interdit dès les années 90 le recours à la force ou à la pression psychologique durant les interrogatoires. En clair, la torture est interdite en Israël. Toutefois, beaucoup de Palestiniens et d'organisations de défense des droits de l'homme témoignent encore régulièrement de la violence de certains interrogatoires menés par le Shin Bet, le service de renseignement intérieur, et ça ne soulève ici aucune vraie polémique, aucune réelle protestation dans le pays, Frédéric.
Mais l'actualité, cette semaine, chez vous, c'est le jour de la Shoah, Yom HaShoah, qui, comme chaque année, se transforme en tribune politique.
Oui, c'était il y a 2 jours, comme chaque année, c'est tout le pays qui s'est figé. Il y a une photo émouvante dans le Haaretz à Tel Aviv où l'on voit tous les passants, les voitures, les camions s'arrêter. Ça dure 2 minutes, le temps que la sirène retentisse, en hommage aux 6 millions de juifs morts pendant la guerre. Et comme vous le disiez, l'événement a donné lieu à un échange de vues très contradictoire entre le Premier ministre et le président israélien, Benjamin Netanyahou, qui n'a pas résisté à comparer les visées expansionnistes, dit-il, de l'Iran actuel à l'Allemagne nazie des années 30.
alors qu'en regard, le président Rivlin lui a appelé les Israéliens de ne pas laisser leur vie dictée, je cite, par les peurs du passé et les menaces du présent. On le voit, la Shoah reste donc toujours très instrumentalisée politiquement en Israël, à tel point qu'un site web propose désormais d'échapper à ces célébrations institutionnelles et de commémorer l'événement dans un format beaucoup plus intime, en invitant dans son salon un survivant de l'Holocauste. 800 célébrations de ce type à la maison se sont tenues l'an dernier dans le pays.
Dernière info, Sébastien Legénie, c'est le retour des voitures palestiniennes en Israël.
Oui, c'est une première depuis l'an 2000, depuis le début de l'intifada, la deuxième intifada. Des voitures avec des plaques vertes, c'est la couleur des plaques palestiniennes, pourront bientôt circuler sur les routes de l'État hébreu. Pas n'importe lesquelles, évidemment. Ne seront autorisées que les voitures des docteurs palestiniens qui ont des permis de travail dans les hôpitaux israéliens. À peine quelques dizaines de voitures, donc, alors que 2,5 millions de Palestiniens vivent aujourd'hui derrière le mur.
Merci Sébastien Legénie, correspondant de Radio France à Jérusalem. Ben voilà, c'est l'heure du clin d'œil de Yacine Bouza. Fin d'émission.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur comment espionner son petit ami, sa petite amie ou un utilisateur de votre ordinateur. Enfin, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Donc alors, tout d'abord, on va commencer par télécharger le programme. Donc, il n'est pas très lourd, hein.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'outil Chrome Remote Desktop ou Bureau à distance Chrome. C'est un petit programme proposé par Google qui vous permet de prendre la main à distance sur un ordinateur et aussi permettre à un utilisateur d'accéder au vôtre.
Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur ma chaîne, le premier commenté. Donc ce tuto consistera à télécharger un logiciel qui s'appelle Wireless, si je me trompe pas, Kiveview 1.70. Donc ça consistera à trouver le mot de passe de la box de vos voisins si vous n'avez pas de connexion.
De retour pour une nouvelle vidéo, cette fois, comment pirater un ordinateur. Donc avant de commencer, je tiens à rappeler que c'est illégal, mais c'est marrant.
Voilà, c'est illégal, mais c'est marrant. Yacine Bouza avec Philippe Catherine pour la musique et des hackers en herbe. Amel Guiton.
Oui, si je pouvais juste rajouter très brièvement à l'intention du jeune homme qui parlait peut-être s'il nous écoute, mais que les peines pour piratage ont été doublées, voire triplées quand on s'attaque à des infrastructures d'État dans le projet de loi renseignement tel qu'il ressort des premiers votes. Donc voilà, ça risque d'être encore plus puni.
Illégal, mais pas tellement marrant alors en fait. Merci à tous, l'émission touche à sa fin. Merci à nos invités, Amel Guiton.
Merci à vous.
Journaliste à Libération, que vous avez publié aux éditions Diable Vauvert, Hackers au cœur de la résistance numérique. François Clémenceau, rédacteur en chef du service étranger au Journal du Dimanche, et votre livre en plein dans l'actualité de la semaine, Hillary Clinton de A à Z, vient de paraître aux éditions du Rocher. Jacques Folleroux, journaliste d'Enquête au Monde, chargé des questions de terrorisme et de renseignement, et vous avez publié en octobre dernier Démocratie sous contrôle, la victoire posthume d'Oussama Ben Laden chez CNRS Édition. On retrouve toutes ces références sur notre site franceculture.fr. En duplex au téléphone, Benjamin Desgachon, directeur France de change.org, était avec nous. Merci. Merci à nos deux regards extérieurs aujourd'hui qui nous ont accompagnés. Isabelle Vermasson, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS, et Thibaut Henton pour les images, le web et les confettis. Dans les coulisses de l'émission, les indispensables Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr, avec aux manettes aujourd'hui Dotar Guérid. Le clin d'œil de la semaine, on l'a encore tous dans l'oreille, était signé Yacine Bouzard. Merci également à Sébastien Legénie, correspondant de Radio France à Jérusalem. Dans un instant, le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques, les politiques de Maurice Blanchot. Alain Finkielkraut reçoit Jean-Luc Nancy, Michel Suria. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
Même si on peut critiquer les effets de manche de Manuel Valls au Parlement lorsqu'il dit « nous sommes en guerre contre le terrorisme »,
quelle que soit la façon dont on le dit, ça reste une réalité.
Je pense qu'il n'y a que quelques personnes qui critiquent et qui sont vraiment vigilants. Le reste de la population, je veux dire, ils achètent ça. Ils achètent ça parce qu'on baigne dans une ambiance anxiogène, etc.